Alors le sujet, on en a parlé depuis des siècles et à travers le monde, déjà au sein de la sphère civilisationnelle islamique et en dehors, bien entendu. Pour ma part, je regrette beaucoup que ce qu'on appelle le moment coranique, le moment au sens hegelien du terme, un temps de rupture, voire d'irruption de quelque chose dans l'histoire de l'humanité, ne suscite pas davantage d'études et d'intérêts qu'en dehors de cercles assez restreints. Certes, il y a le corpus coranicum, tout ce programme qu'il faut saluer à Berlin, et puis ce que vous faites ici. Mais à mon sens, ce n'est pas encore à la mesure de l'importance de ce moment et de cette apparition. D'une part. D'autre part, bien qu'on ait dit, le « on » davantage Voltaire et d'autres, que c'est une rhapsodie sans ordre, ni art, ni liaison, et donc c'est un discours qui déroute, qui n'a pas de sens, bien, il n'en demeure pas moins que c'est aussi un objet d'étude et d'intérêt. Deuxièmement, j'ai vu que ne serait-ce qu'au niveau des titres aujourd'hui, bien sûr qu'il faudrait savoir distinguer la lecture confessante de l'étude en tant que telle. Il faut savoir rendre au Coran, même si les mystiques, et non sans raison, veulent s'y noyer, s'y immerger dans le flot de la parole divine, bien aussi faire du texte un objet de savoir et un objet d'étude. Donc savoir et être en mesure de distinguer, même pour l'homme et la femme de foi, étudier un texte indépendamment des considérations confessionnelles. Est-ce possible? Je pense que oui, si on est suffisamment outillé intellectuellement pour séparer les paramètres, distinguer les registres, faire preuve de discernement, un peu mutatis mutandis à la manière d'un Ahmed Amin, 1886-1954, qui, avec certains de ses amis, discutait, spéculait au sens premier du terme, essayait de voir loin dans des considérations théologiques et surtout sur l'existence même de Dieu. Est-ce que Dieu existe? D'ailleurs, en toute rigueur, Dieu n'existe pas, parce que ça serait sortir d'eux. Étymologiquement, exister, c'est sortir d'eux, alors que Dieu est sans être tout en étant, disait toujours Hegel. Donc, et quand il y a l'appel à la prière, tous se lèvent et d'un rang se mettent à prier ce Dieu dont il disait tout à l'heure peut-être qu'il n'est pas là et qu'il n'y a pas d'origine non mécanique à tous les mécanismes. Bon, donc à mon avis, ça me paraît être de la plus haute importance d'avoir cette approche. Et a fortiori, quand on commet l'irréparable, l'innommable, au nom aussi de ce texte. Et en dehors de cette formule désormais galvaudée, il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne pas l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte. Et lequel texte d'ailleurs? J'ai entendu tout à l'heure 1923-1924 a été fixé une bonne fois pour toutes. Et les auteurs latins auraient dit un textus receptus universus ne valetur. Ça sous-entend que c'est devenu un texte reçu, universel, auquel cas on ne peut plus rien changer. Il est ne valetur, donc on ne peut même pas toucher la moindre virgule. Alors qu'au moment de sa fixation, les points diacritiques n'y étaient pas, que dire de la ponctuation? Et même les points diacritiques n'ont commencé à faire leur apparition que bien plus tard, au mieux sous le calife Abdelmalik ibn Marwan, 685-705, je dis encore au mieux. Et d'ailleurs, Abdelmalik ibn Marwan va jouer encore un autre rôle. Le temps s'écoule. Dans ma communication, je devrais parler d'aspects historiques et d'aspects théologiques. Les aspects historiques, en réalité, c'est plus que cela. C'est que lorsque, je reviens d'un mot sur ce que j'ai dit, à savoir distinguer la lecture confessante de l'étude et celle du savoir, d'aucuns disent « Oui, mais vous touchez au sacré. » Ben oui, mais le sacré de nos jours est devenu obèse, il faut savoir le dégraisser. Et donc, il faut savoir le rendre le plus squelettique possible. Roger Caillois disait « C'est ce dont on ose approcher sans subir une fulgurance. » Mais dussions-nous recevoir quelques fulgurances ? Étudions. Étudions ce texte-là avec l'outillage intellectuel dont nous disposons. Et donc la batterie de discipline qui est la nôtre. Et nous ne faisons rien d'autre que ce que faisait un Soyotti. Est-ce que vous pensez un instant que Soyotti, savantissime du XVe siècle, notamment dans sa maîtrise des sciences du Coran, « Al-Itqan fi ulum al-Qur'an », donc n'a rien fait d'autre que d'utiliser ce que le savoir cumulatif de son époque l'a aidé à étudier et à produire ce qu'il avait produit. Bien de nos jours, cette batterie de disciplines des SHS, les sciences de l'homme et de la société, sont la codicologie, la paléographie, la philologie, l'historiographie, l'exégèse moderne, l'herméneutique, la critique historique, l'hypercritique, la médiologie, la sémiotique, la linguistique. La linguistique, c'est appliquer les sciences du langage à un texte. Ne serait-ce que pour répondre à des questions. Qui parle? Pour qui? Y a-t-il une intention dont on a désespéré à jamais de pouvoir la trouver? Et pour cause, on ne l'a pas. Donc toutes ces choses-là doivent être mises au service d'une compréhension, encore une fois, d'un texte. Ça, en ce qui concerne l'aspect d'étude du déplacement du sacré vers d'autres horizons cognitifs et porteurs de sens, et pourquoi pas d'espérance. Et ça aidera beaucoup et davantage les musulmans à sortir, l'article là est toujours problématique, mais en tout cas sortir d'une vision où on assoit la croyance au détriment de la connaissance. Si on pouvait mener de pair les deux choses, pourquoi pas, mais encore une fois, c'est plutôt la connaissance qui doit primer, parce que l'extrémisme et le culte sans la culture et le fondamentalisme, c'est la croyance sans la connaissance. Alors, les deux approches, donc historiographiques ou historiques, on nous a, pardon, je ne veux pas être dépréciatif ni désobligeant, je le dis comme ça pour aller un peu plus vite, on nous a vendu un récit, une histoire, rapportée davantage dans sa version canonique et standard par un traditionniste, auteur d'un authentique, d'un sahih, mort en 870, en l'occurrence Al-Bukhari, d'ailleurs taisant quelques réflexions d'un de ses prédécesseurs, de Zuhri, et qui, vous la connaissez tous, donc je n'aurai pas l'outrecuidance de la rappeler, mais très brièvement, dans la version standard, il se trouve que déjà le futur calife du calife, c'est comme ça qu'on l'appelait, Khalifat Rasulullah, donc Omar, est venu voir le calife Abu Bakr, dont on n'est même pas sûr que le titre calife s'appliquait déjà à ce moment-là, pour lui dire, il est peut-être temps de fixer le texte. De nos jours, il y a un débat entre est-ce que le Coran que nous avons entre les mains est un texte écrit sous forme de... C'est quelque chose qui aurait dû être écrit, le mot écrit et le mot livre s'appliquent comme un graphisme, ou est-ce que tout simplement une oralité mémorisée, et pour aider la fixation ou la mémoire de cette oralité, on est tenu d'écrire. Donc c'est déjà en soi un débat entre qu'est-ce qu'on entend par un écrit. Donc est venu voir Abu Bakr pour le lui dire, et après on est allé voir Hafsa pour recueillir les feuillets, lesquels feuillets on a utilisé une ficelle et on a essayé d'avoir un peu blindé les deux couvertures pour que ça fasse un codex, un mushaf, et le mushaf est un mot abyssin, éthiopien, j'ai entendu tout à l'heure. Bon, ben voilà, et après, il y a l'histoire de Hudhayfa, le généralissime de l'émir de Médine, c'est comme ça qu'on appelait Othman. À ce moment-là, même le titre de Khalifa n'était pas aussi répandu. N'oublions pas que le fait de les appeler les califes de la rectitude ou les bien guidés ou ceux de la bonne guidance ou orthodoxe n'est venu que 2 siècles plus tard, pas de leur vivant. Et donc, Hudhayfa est venu pour dire à... C'était même important de laisser, alors qu'il était en Arménie, venir voir le calife pour lui dire au secours, la communauté diverge sur la lecture de la parole de Dieu, il va leur arriver ce qui est arrivé aux juifs et aux chrétiens. Et donc le calife va ordonner la recension du Coran, et donc on a colligé, rassemblé les éléments épars avec les deux scribes de l'inspiration, comme on les appelait, Ubay ibn Ka'b et Zayd ibn Thabit. Bon, voilà, ça c'est en gros la version standard. À titre personnel, je ne suis pas sûr que les choses se soient passées nécessairement comme ça. Vous avez bien entendu et la litote et l'approche un peu euphémistique ou euphémique de la chose. Et pour cause, si j'en juge uniquement par les historiographes et les chroniqueurs tels que Seyf ibn Amr, notamment dans son livre, le livre des conquêtes, le titre arabe c'est Ridda ul Futuh, ben, on ne voit pas des choses de cet ordre. On n'a pas beaucoup de temps, sinon on se serait un peu appesanti sur ce qu'il a présenté. Après lui, il va y avoir Ibn Sa'd dans ses catégories, dans ses générations ou dans ses classes, les grandes classes. Et puis, le dernier, Ibn Shabba, dans sa monographie pour l'histoire de Midi. Il en a fait pour Koufa, pour Bassora, pour d'autres, mais ce qui nous est parvenu, c'est plutôt sa monographie sur l'histoire de Midi. Et on voit que, en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela, et une des causes, pas uniquement, qui ont fait que Othman a été assassiné pour des raisons de népotisme politique, mais aussi on lui en avait voulu d'avoir voulu fixer le texte ou la parole coranique en un seul, alors qu'il y en avait plusieurs. À ce moment-là, ça ne posait pas de problème. L'anecdote, mais je le dis uniquement de passage, c'est que lorsqu'on l'avait poignardé là au niveau du cou, son sang a giclé. Il était lui-même en train de lire le Coran et ça a giclé le passage 137 de la sourate 2 où il est dit s'il croit en ce que tu crois, ils seront bien guidés, et s'ils s'en détournent, ils seront dans le schisme et Dieu seul te suffira. Donc là, on trouvait une intervention miraculeuse de Dieu avec ce sang qui est venu maculer le texte qu'il avait entre les mains. J'ai dit tout à l'heure qu'Abdelmanik ibn Marwan va faire encore une autre intervention de la plus haute importance. C'est que je soumets ça à votre sagacité, moi aussi, tout comme notre ami, je n'impose rien. Mes avis sont révisables, interrogeables, discutables, contestables à chaque instant. Je n'en fais aucun dogmatisme là-dedans. N'oublions pas qu'Abdelmanik ibn Marwan va venir à Médine parce qu'il est en 695, ayant mis fin à la rébellion au califat de Zoubeb, Abdallah ibn Zoubeb. Et là, dans un souci d'apaisement, il va dire aux Médinois quelque chose comme, pour aller vite, je ne vous en veux pas, vous êtes ceux qui avaient déjà assisté à Hadal Amr, Amr au sens où vous avez aidé le prophète, etc. Et du coup, de toute façon, et notamment aidé par son gouverneur, Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui va jouer aussi un rôle important, je me dois et je rassemble aussi le Coran. Avec cette idée, là c'est une interpolation chez certains historiographes de nos jours, c'est que la sourate 2, ce que nous appelons sourate 2, la sourate de la vache ou de la génisse, ne faisait pas partie, y compris dans la Vulgate ottomanienne, c'est que Zeyd Noutabit l'avait mise à part parce qu'elle a un aspect législatif, prescriptif, paradigmatique, principiel, normatif, et c'est plutôt sur ordre du calife Abdelmalik ibn Marwan de l'avoir amalgamé, fusionné en un seul codex. Au moins quatre codex étaient en concurrence, pour ne pas parler des autres, celui d'Ibn Mas'ud, celui de Miqdad, celui de Ubay ibn Ka'b, bien sûr, et celui qui finalement a été colligé sur ordre, dit-on, de Othman. Et j'ai oublié celui de Abu Moussa al-Ash'ari, à ne pas confondre avec l'autre, donc le gouverneur de Bassora, qui d'ailleurs, curieusement, lui avait donné même un autre nom, Lubab al-Fu'ad, l'essence en un seul mot, du cœur. Et il y tenait, et comme il était originaire du Yémen, il tenait aussi à ce que ses contributeurs yéménites puissent lire dans cette version-là. Ces concurrents, ces rivaux, ces codex concurrents étaient, en dépit de la mainmise et de la volonté de Hajjaj d'imposer ce que son maître lui avait dit, eh bien, étaient en concurrence jusqu'au Xe siècle. Et quand Mujahid, lui, en a imposé sur ordre, j'allais dire, du pouvoir politique, uniquement un seul codex avec des variantes au niveau de la lecture, ceux qui s'obstinaient ou s'entêtaient à lire les autres, eh bien, devaient être bastonnés. Le cas le plus flagrant est celui d'Ibn Shanabout, qui, le pauvre, non seulement il a été emprisonné, a connu quelques sévices, et puis il était même obligé de fuir Bagdad, puisque la dévotion populaire a ingéré l'idée qu'il ne faudrait lire qu'un seul livre. Bon, je ne dirai pas grand-chose sur les aspects théologiques, si ce n'est en coup de sonde, comme ça. D'abord, de nos jours, à mon avis, il faut que nous nous interrogions sur des paroles qui, de mon point de vue, ne sont pas aussi interchangeables qu'on le pense, entre paroles de Dieu, Coran, révélation, inspiration, Mushaf, bon, j'allais dire pour finir la codex. Est-ce que ce que nous avons entre les mains là sont les ipsissima verba de Dieu? L'approche confessante dira oui. Le reste, on a certes... Qu'est-ce qu'on entend par l'empyrée céleste dans lequel se trouve une table gardée dans laquelle il y a... Alors, comment on va traduire? La mère du livre, la base du livre. Qu'est-ce que c'est al-kitab? C'est peut-être la base, c'est peut-être les fondements, c'est peut-être même le guide, etc. La source, l'origine, bravo. Donc, on a ça. Et puis, je les donne uniquement sous forme interrogative, ce sont des questionnements. Dans le débat Coran créé-incréé, qu'est-ce que c'est qu'une révélation qui descend à point nommé pour sauver une situation, répondre à telle situation, épousant les contingences du prophète de l'islam? L'exemple de Aïcha en est un, on en a d'autres dans le ministère apostolique du prophète de 610 à 632, ce qui correspondra à 23 années lunaires. Troisième question, on a un texte qui est autosuffisant, autodéterminant et autoréférent. Ceux qui n'y adhèrent pas, n'y adhèrent pas, mais on leur impose dans les débats, on ne leur impose pas tous, mais ça ne se passait pas comme ça à la Maison de la Sagesse à Bagdad, ou lorsque des Nestoriens, des Juifs, des Zoroastriens, etc., disaient, écoutez, ne nous prenez surtout pas votre Coran comme base de discussion, on ne le reconnaît pas. Et il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, en brandit des passages coraniques, des versets coraniques, alors qu'ils sont en tension linguistique avec ce qui précède, avec ce qui suit, et on les brandit comme autoréférence. À un moment donné, il faudrait peut-être s'en détacher. Aussi, là, l'approche un peu chiasmatique de tout à l'heure m'avait beaucoup intéressé de croisement, mais il y a aussi des passages de facture psalmique et qui viennent s'ingérer ou s'intégrer entre deux passages de type prescriptif. Le meilleur exemple, c'est le verset dit du trône. On ne voit pas, en gros, qu'est-ce qu'il vient faire ici spécialement. Et puis, ce sont toujours des questions. Qu'est-ce que c'est que... Enfin, je perds le fil de mon idée. Peut-être pour rendre la tâche facile à ces Mohamed Hossein Ben Khaira, j'arrête là. Et comme ça, on ouvrira le débat. Mais en tout cas, les questions théologiques sont aussi impérieuses et importantes. Il faut les aborder avec froideur d'esprit, avec sérénité, avec calme, simplement pour essayer de comprendre. Parce que, j'ai l'habitude de le dire, je finirai avec ça, la théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps.